Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Jeanne et vous écoutez Basilic, le podcast consacré à l'environnement et aux initiatives positives. Du biologique à l'écologique, du zéro déchet à l'upcycling, de l'associatif à l'entrepreneuriat, vous découvrirez un nouvel invité qui nous partagera son parcours, ses actualités et ses projets. Vous pouvez retrouver les précédents épisodes de Basilic sur votre smartphone, dans votre application de podcast ou bien évidemment sur notre site internet basilicpodcast.com. Bonne écoute à tous! Cette semaine, je reçois Céline Séris. Céline et son compagnon David ont décidé, il y a un peu plus de 2 ans, de réorganiser leur vie afin de se réapproprier leur temps. Ils ont donc, dans un premier temps, entrepris un changement professionnel, quittant tous les deux leur CDI pour se former à des métiers d'indépendants, leur permettant ainsi d'être libres de leur agenda. Et puis, depuis 7 mois, ils ont quitté la France et leur mode de vie sédentaire pour devenir nomades et parcourir le monde. Céline et David sont des voyageurs slow. Ils cherchent à limiter au maximum leur empreinte écologique et bien évidemment leur empreinte carbone. Ils n'ont donc pas pris l'avion pour arriver jusqu'à Hong Kong. Ils limitent au maximum les déchets, se sont équipés de filtres à eau pour ne pas consommer de plastique, ont même été jusqu'à acheter des vélos en Mongolie pour ne pas parcourir les steppes mongoles en 4x4. J'espère que cet épisode vous plaira et surtout qu'il vous inspirera et vous donnera envie de voyager autrement. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bienvenue sur Basilic. On est à Hong Kong. Toi, tu as entrepris avec ton compagnon un changement de vie, un voyage, mais surtout un changement de vie, en fait, de passer de la vie sédentaire à la vie nomade. Mmh. Tout ça en faisant le pari de ne pas prendre l'avion. Donc, c'est pas évident. Tu es déjà arrivée jusqu'à Hong Kong, c'est pas mal. On va revenir un petit peu sur tout ton voyage, sur qui tu es, et peut-être que tu peux commencer par te présenter.
Oui. Donc, je m'appelle Céline, je suis l'auteur d'un blog qui s'appelle Is No Good, qui est au départ dédié à la mode éthique, mais qui s'est ouvert en fait progressivement sur tout un mode de consommation un peu plus responsable, parce qu'au final, c'est tout lié, tout ça. La consommation responsable, c'est toutes les sphères de la vie, en réalité, et le voyage compris. Et donc, voilà, on est parti il y a 7 mois pour un tour du monde sans avion.
Alors, comment vous avez décidé de changer de vie, de passer à une vie un peu plus nomade?
Moi, je suis diplômée en finance, normalement. Donc, j'ai commencé
normalement.
À...
Normalement. Tu l'es quand même.
Ouais. Ouais, donc j'ai été diplômée en finance et puis je suis partie dans la vie active, complètement lancée, propulsée, le CDI avant la fin des études. Enfin, voilà, j'ai travaillé pendant 3 ans non-stop. Et puis, au gré des lectures, des rencontres, des voyages aussi, je me suis rendu compte en fait un jour que j'allais vers une carrière, vers une vie même qui ne me ressemblait pas du tout. Que j'allais consacrer des journées à travailler sur quelque chose qui finalement n'avait pas vraiment de sens pour moi. Moi, j'avais envie d'avoir un impact plutôt positif sur déjà moi-même et puis le reste du monde aussi, si possible, sur la planète aussi. Et là, ce que j'allais faire, ce à quoi j'allais consacrer ma vie et la majorité de mon temps, parce qu'au final, qu'est-ce que c'est un travail salarié aujourd'hui ? C'est travailler 8 heures au moins par jour sur quelque chose qui pour moi n'avait pas de sens. Donc j'ai démissionné un beau jour de septembre, le jour de mon anniversaire. J'ai amené ma lettre de démission et voilà, je suis partie pour reconstruire une vie qu'on avait décidé du coup avec David, mon compagnon. On avait décidé qu'on voulait se réapproprier notre temps. On voulait redevenir maître de ce temps, parce qu'au final, qu'est-ce qu'il y a de plus précieux ? C'est pas forcément les chiffres et les billets que moi j'étais amenée à manipuler au départ. C'est pas ça, en fait, la valeur dans la vie, c'est le temps. Et du coup, en cherchant à réapproprier cette valeur-là, ce temps, on a un peu réinventé nos vies. Et donc, moi, j'ai réinventé un métier. J'ai totalement abandonné la finance. Aujourd'hui, j'écris majoritairement. J'ai repris, j'ai recommencé l'écriture, ce que j'avais un peu dû laisser de côté pour m'occuper des chiffres. parce que j'ai toujours aimé écrire. Donc maintenant, j'écris, je passe une grosse partie de mes journées à ça. Donc j'écris sur Internet pour des entreprises que j'essaye d'avoir le plus green possible pour que mon empreinte sur Internet soit la plus utile possible. Et j'aide aussi tout ce qui est community management, pareil pour des marques qui, selon moi, le méritent et que j'ai envie de soutenir. Et voilà. Et donc, c'est en cherchant à se réapproprier cette valeur et en essayant d'avoir en plus un impact positif qu'on a un peu repensé nos vies. Et aujourd'hui, ben, on est capable de travailler sur Internet tout en voyageant.
Quand tu as eu cette prise de conscience, que tu as vraiment décidé de quitter ton boulot, est-ce qu'il y avait de l'appréhension ou finalement c'était un grand soulagement ? Tu t'y étais préparée, j'imagine ?
Oui, je m'y étais préparée, mais c'est vrai qu'il y avait de l'appréhension parce qu'en fait, au final, c'était une vie qui était parfaite d'un point de vue social. C'est-à-dire que j'avais fait de grandes études, je faisais un métier qui était très valorisé. Autant par la société que dans mon porte-monnaie, je gagnais aussi très bien ma vie. Et du coup, il y avait cette appréhension-là de finalement tirer un trait sur ce que tous les autres considèrent comme la réussite. Et ce que moi, on m'avait aussi mis dans la tête plus jeune. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais arrivée là, c'est parce que je considérais aussi que c'était ça, réussir.
C'est quelque chose qui était assez marqué dans ta famille ?
En fait, mes parents sont profs, sont profs de maths. Quelque part, ils m'ont poussée du coup à aller vers les maths, à aller vers les chiffres. C'est pour ça que j'ai fait de la finance. Et encore, je tirais un petit peu du côté. Je me suis pas dédiée, par exemple, comme mes grandes sœurs ont pu le faire aux mathématiques, parce que j'avais déjà ce côté un petit peu plus global. Donc, je suis allée vers une école de commerce en pensant que ça serait un peu plus global et général et généraliste. Mais au final, je me suis un petit peu laissée avoir. je pense pas. Mes parents sont pas issus du monde de l'entreprise. Je pense pas qu'ils m'aient poussée à faire quoi que ce soit. Je pense que c'est juste de manière générale, en fait, je me suis laissée porter par peut-être les profs, ce que j'entendais autour de moi, sûrement mes parents, sûrement un peu mes grandes sœurs, sûrement un peu tout le monde, en fait, et puis sûrement l'image aussi que moi, ce que moi j'ai compris des messages qu'on me passait.
Mais pour en moi, même temps, si t'avais pas eu ce bagage, la prise de conscience, elle aurait peut-être pas eu lieu ou pas de la même façon, parce que c'est aussi les études, la culture, etc. qui permettent ça.
C'est bien possible. Je regrette absolument pas mon parcours, parce que de toute façon, tout mon parcours en finance m'aide encore aujourd'hui. Et puis, comme tu dis, mes études me servent encore et m'ont permis de grandir. Il y a eu un voyage il y a 7 ans qui a été un petit peu, je pense, le catalyseur de tout ça, qui a commencé en fait à ouvrir un petit peu mes œillères. Et ce voyage, je l'ai fait parce que dans mes études, il était possible de faire une année de césure. Et toutes les études ne le permettent pas. C'est le chemin finalement. Je regrette pas du tout mon chemin.
Ça s'est fait comme ça. Et donc avec David, une fois que vous aviez décidé de partir, c'était longtemps après que tu aies quitté ton travail ?
Ouais. Moi, j'ai quitté mon travail il y a 2 ans. Donc en fait, il m'a vraiment fallu 2 ans pour réussir à avoir une stabilité financière, trouver des clients qui me suivent encore dans mes bagages aujourd'hui, bâtir mon blog aussi, parce que mon blog a 3 ans, mais le temps qu'il tourne bien... Il m'a vraiment fallu ces 2 années pour bâtir un petit peu cette solidité pour qu'on puisse partir. Et puis David, lui, a quitté son travail un an après moi. Et lui, il lui a fallu une année, pareil, pour reconstruire son portefeuille de clients qu'il puisse amener dans son sac à dos.
Donc c'est vraiment un changement de vie. C'est pour ça que j'aime pas dire que vous voyagez autour du monde, même si c'est un voyage, mais c'est un changement de vie, vous travaillez et vous mêlez découverte et travail.
Oui, c'est ça. En fait, ça fait 2 ans que moi, je travaille à mon compte et du coup de chez moi. Et parce que, en fait, ce qu'on voulait faire, c'était se réapproprier le temps, donc en faire ce qu'on veut de ce temps. Et c'est venu effectivement après où pourquoi travailler de chez moi alors que je pourrais être avec Jeanne de Basilic à Hong Kong.
C'était un peu ça, d'autres endroits,
un peu ça l'idée. Ouais.
Donc quand vous êtes partie, comment on se prépare à partir si longtemps? à mettre toute sa vie dans un petit sac à dos minimaliste qui plus est. Et voilà, comment on se prépare à ça? Ça prend du temps?
Alors, oui, en théorie, ça prend du temps. Nous, notre sac à dos, en fait, on l'a monté le matin du départ. Donc, c'est totalement inconscient. Je ne recommande à personne de faire ça. Parce qu'on a vraiment fait le matin du départ, on était super pressés, il y avait le train, donc du coup, la première fois qu'on a mis les sacs à dos chargés sur nos épaules, moi je suis tombée à la renverse, il était beaucoup trop lourd. Mais c'était trop tard, il fallait prendre le train. Ça s'est vraiment passé comme ça.
Mais vous avez renvoyé des choses depuis, non ?
Dès qu'on est arrivé à Munich, notre premier arrêt, on a renvoyé, je pense, 15 kilos. À peu près 15 kilos.
Mm. Bon, donc, pour les auditeurs, peut-être qu'il vaut mieux préparer un petit peu en amont.
Mais bon, enfin, dans ma tête, je savais à peu près ce que je voulais prendre en termes de... Enfin, du coup, moi, la mode éthique et minimaliste, c'était un petit peu mon credo, enfin, ce sur quoi je réfléchis depuis 3 ans maintenant. Donc ça, je savais un petit peu comment construire une garde-robe capsule. Et donc ça, ben, je crois que j'ai pas envoyé beaucoup d'affaires sur les 15 kilos. Mais c'est après, ben, y avait tout le matos pour travailler, vu qu'on travaille. Donc on avait pris en fait trop de choses. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on veut s'assurer le confort pendant le voyage. Sauf que le voyage, en fait, implique forcément, et surtout quand on le porte sur le dos, qu'on fasse un peu l'impasse sur ce qu'on croit être essentiel. Ouais. Et c'est vrai que ça épure du coup, et on a épuré 15 kilos.
C'est pas mal.
Oui.
Sachant que vous traversez quand même différents climats, ouais. Différentes saisons, donc il faut quand même être un petit peu équipé.
Oui, mais pour ça, on a un peu, enfin, on trichait, je sais pas, mais en fait, on a d'abord donc traversé l'Europe en hiver. Et donc là, on était chargé en pull, en pantalon, etc. Et on n'avait absolument aucun short, quasiment aucun t-shirt. Et une fois arrivé à Ulaanbaatar, où là, le climat a commencé à changer. Donc normalement, là, on est dans une ère où on va avoir chaud pour les prochains mois, voire prochaines années, en fonction de combien de temps on reste ici. On a fait un switch de sac à dos. Donc en fait, on avait préparé un colis qu'on a reçu à Ulaanbaatar avec des affaires d'été. Et nous, on a renvoyé nos affaires d'hiver en France.
Ok, pas mal comme astuce. Et alors, ce départ, vous montez dans le train, qu'est-ce que ça donne ? Excitation.
Ouais, je crois qu'il n'y avait que ça. Ouais. Il n'y avait absolument pas d'appréhension parce qu'on était préparés depuis longtemps. C'est ce qu'on voulait depuis longtemps. Et puis, en fait, on a eu... Enfin, avant de partir, on voulait vendre notre maison parce qu'on avait acheté une maison il y a 3 ans. Enfin, 3 ans avant de partir. 3 ans et 7 mois maintenant. Donc on avait acheté une maison et on voulait la vendre parce qu'on voulait plus rien avoir sur les épaules à part notre sac à dos. Donc cette maison, on a mis, il me semble, 4 ou 5 mois à la vendre. Donc en fait, ça faisait déjà 4 ou 5 mois qu'on attendait de signer le papier pour prendre nos billets. Et donc voilà, 4 ou 5 mois du coup qu'il n'y avait que de l'attente de quand est-ce qu'on y va, quand est-ce qu'on part. Donc ouais, le jour où on est monté dans le train, c'était que de l'excitation. On savait que de toute façon, en fait, c'était que de la liberté finalement. Parce que si on voulait repartir 2 jours après, on avait toujours la possibilité de repartir faire autre chose 2 jours après. Ou si on voulait revenir 7 ans après, on avait la possibilité de le faire. Donc ouais, que de l'excitation parce qu'on était, c'est nous qui l'avions décidé.
Et en vous réappropriant votre temps, est-ce que vous avez réussi à trouver le bon équilibre entre le boulot, la vie perso, les découvertes ?
Alors ça, c'est, je dirais, le plus difficile du voyage. C'est vraiment de faire de trouver le bon équilibre entre le temps qu'il faut consacrer au travail et surtout quand ce travail est passionnant et le temps qu'il faut consacrer aux lieux qu'on visite. C'est le plus difficile. En fait, il faut réussir à établir une routine. Donc, en général, nous, on essaye de travailler le matin et de sortir l'après-midi. Jusqu'à présent, ça nous a plutôt bien réussi. Mais il faut vraiment, en fait, réussir à faire des routines. Enfin, nous, en tout cas, c'est ce qui nous réussit le mieux. On ne peut pas se dire on va faire comme ça au feeling parce que sinon, on se retrouve à travailler. Enfin, moi, dans mon cas, je pense que je vais plus pencher par je me retrouve à travailler tout le temps. Et David pencherait plutôt de l'autre côté. Je me retrouve à visiter tout le temps.
Donc c'est bon, à vous deux, ça fait un bon équilibre.
Ouais, je pense que ça aide aussi, le bon équilibre.
En sachant que toi, tu relais bien évidemment sur ton blog ce voyage. Mm. En essayant de donner le plus de conseils, le plus d'astuces pour tes lecteurs et tes lectrices. Donc ça prend du temps aussi.
Oui.
Tout en bossant en parallèle pour ouais, les marques. Ouais.
Oui, je cumule un peu tout, mais c'est, voilà, c'est des choses qui me passionnent. Et c'est pour ça que j'y consacre du temps. Mais bon, encore une fois, voilà, j'en fais ce que je veux de ce temps. Mais c'est vrai qu'on est toujours... Enfin, il y a toujours en fait un petit côté frustrant à se dire ben, « Je suis à Hong Kong, j'aimerais vraiment découvrir à fond la ville. » parce que du coup, quand on fait le pari de ne plus prendre l'avion, Hong Kong, c'est l'autre bout du monde. Quoi. Enfin, il nous a fallu 7 mois pour arriver. Alors bien sûr, on aurait pu arriver plus vite. Mais quand même, on se rend vraiment compte que c'est l'autre bout du monde et on sait que ben, potentiellement, on ne reviendra jamais ici. Donc ça prend une autre valeur, en fait. Ouais.
C'est sûr, mais je te rassure, même après 4 ans ici, je n'ai pas tout visité. Je n'ai pas eu le temps de tout découvrir et, ouais. Et le temps, malheureusement, finit toujours par manquer. Quoi.
Ben, c'est ça.
Et donc, quand vous étiez en Europe, tu en as profité pour vraiment lier mode éthique et voyage en contactant des marques pour visiter leurs ateliers. Ça, c'était vraiment ta volonté aussi? Tu avais ça dans un petit coin de ta tête depuis que tu t'imagines ce voyage?
Ouais. Oui, en fait, je savais qu'on allait partir en Asie. Parce qu'en fait, ça a commencé en Europe avec les ateliers de Bleu Tango, qui est une marque française, qui fabrique en Pologne. Et... moi, pourquoi est-ce que j'ai créé ce blog, en fait, il y a 3 ans au départ? C'est parce que je pense vraiment que ce qui fait qu'aujourd'hui, le secteur de la mode a vraiment de gros problèmes, que ce soit en termes d'éthique ou d'environnement, c'est que le consommateur ne se rend pas du tout compte, en fait, de ce qu'il y a derrière ce qu'il achète. Et pourquoi? C'est parce que le lien est totalement coupé entre la personne qui va concevoir le t-shirt et la personne qui va le porter. En fait, on ne pense absolument pas aux gens qui... Parce qu'il y a vraiment des gens avec des mains, en fait, hein, qui travaillent sur nos vêtements. Et en fait, ce lien est totalement coupé, évidemment, à cause des grosses marques, qui ça les arrange bien, en fait, qu'on ne sache pas ce qui se passe à l'autre bout du monde. Et donc, le fait, moi, de me rendre à l'autre bout du monde, je me suis dit, je vais y aller. Je vais aller voir comment ça se passe... dans les usines. Et donc la première à m'avoir ouvert ses portes, c'était Bleu Tango. La fondatrice n'avait encore jamais mis les pieds dans l'atelier. Donc elle m'a vraiment autorisée à rentrer sans vraiment savoir finalement comment c'était, mais en étant sûre de ce que j'allais trouver. Elle a eu raison. On peut fabriquer en Pologne, ça reste pas du made in France, mais c'est du made in pas trop loin quand même, et ça permet d'avoir des prix abordables aussi, parce qu'en fait on parle beaucoup du made in France en France, mais en fait les consommateurs n'est pas du tout prêt à mettre le prix du made in France, donc le made in Pologne, c'est un très bon compromis. Et je peux vous assurer qu'en tout cas cet atelier là était ultra éthique. Enfin, moi, j'ai rencontré les couturières, elles avaient le sourire. C'était de super conditions de travail. Et là, en Chine, là, par contre, je me heurte un peu à un mur au niveau des réponses des marques. Même les marques qui se disent éthiques et engagées.
T'as pas été la bienvenue pour l'instant.
Non. Non. Personne ne m'a ouvert ses portes en Chine. Et j'ai contacté, il y a vraiment 2 marques que j'aurais voulu voir, parce qu'en plus je contacte pas Decathlon, Zara, H&M. Je sais là que si je voulais vraiment voir ce qui se passait, je sais que s'il fallait vraiment voir ce qui se passe dans ces usines là il faudrait que je contacte des associations et que je rentre de manière infiltrée. Enfin, je sais qu'à aucun moment, je sais très
personne
bien de ce que
sera,
je pourrais
non.
trouver. Mais là, j'ai contacté 2 grosses marques qui se disent éthiques et engagées. Et c'est le mur total, quoi.
Le message a bien été relayé sur les réseaux sociaux, parce que tu as une grande communauté et que c'est un message qui finalement intéresse et qui touche tout le monde. Mais malgré ça, ça n'a pas permis d'ouvrir les portes.
Non, parce que ces marques-là jouent sur le bénéfice du doute. S'il n'y a pas d'image, s'il n'y a personne pour dire comment c'est, personne ne sait finalement. Parce que moi, je ne sais pas plus que vous.
Bon, ils n'y sont peut-être jamais allés non plus.
Oui, c'est possible.
Donc, en tant que consommateur, il faut quand même bien garder en tête que si c'est made in China ou d'autres pays, il y a plus que le bénéfice du doute.
Ouais. C'est aussi le problème de la mode, en fait, c'est qu'il n'y a pas, il y a pas vraiment de label qui puisse garantir des bonnes conditions de travail. Il y a le label GOTS. Si le vêtement est labellisé GOTS dans son intégralité, donc pas que seulement le tissu, mais vraiment dans son intégralité, là, on peut être sûr qu'il a été fabriqué dans des circonstances éthiques, mais c'est très rare.
Et c'est souvent le tissu.
Ouais, c'est souvent le tissu. Et il y a le label Fairwear Foundation aussi, mais à prendre avec des pincettes quand même. Enfin, je pense que ça mériterait un petit audit.
Mais bon. Et est-ce que tu as prévu d'autres visites d'ateliers? Est-ce que suite à ces messages-là, il y a d'autres marques qui t'ont tendu les bras, qui sont prêts à t'accueillir?
Oui, j'avais encore d'autres usines sur la route, pas mal au Vietnam, au Laos, au Cambodge. Il y a pas mal de marques éthiques qui travaillent là-bas. Et moi, en plus, ça me permet de voir comment ça se passe, de montrer en fait que c'est tout à fait possible pour une marque de faire fabriquer et de proposer des prix. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que les marques fabriquent à l'autre bout du monde? C'est parce qu'elles peuvent du coup proposer des prix bas. Et le consommateur aujourd'hui, il est vraiment pas prêt à payer plus cher que ce qu'il trouve dans les grandes marques de fast fashion, en fait. Moi, je le sais parce que ça fait 3 ans que j'écris des articles sur la mode éthique et je sais que tous les messages que je reçois, c'est que c'est trop cher. Donc, je sais vraiment que c'est ce qui coince. Donc, voilà. Et donc, il y a plein de petites marques qui, finalement, fabriquent à l'autre bout du monde et qui fabriquent bien. Et donc, ça me permet, moi, de montrer que c'est possible. Enfin, en tout cas, d'essayer. Parce que, visiblement, en Chine, personne ne m'ouvre les portes. Donc... Et pourtant, la Chine, il y a déjà quelques années, ils ont durci les lois pour les conditions de travail. Normalement, ça va mieux, même si en fait, on sait que dans la réalité des faits, en fait, les fournisseurs ont eux-mêmes des fournisseurs qui ont des fournisseurs qui ont des fournisseurs, et ça se termine dans des petits boui-boui dans la rue. Dans des conditions un petit peu, on ne sait pas finalement combien sont payés les petites mains à la fin. Donc, c'est...
Mais c'est vrai que dans l'imaginaire, comme ça, on se dit que fabriquer en Chine, c'est peut-être plus encadré que le travail au Bangladesh.
Oui. En tout cas, dans la loi, c'est plus encadré. Dans la loi, je ne saurais pas dire quand, mais il y a peut-être entre 5 et 10 ans, la loi en Chine a vraiment changé en interdisant le travail des enfants. Enfin, normalement, les conditions de travail en Chine ne sont pas les mêmes qu'au Bangladesh. Mais tout le monde sait aussi que c'est détourné. C'est le serpent qui se mord la queue parce que tant qu'il y a des marques en fait qui proposent des vêtements comme ça, donc du coup qui sont très peu chers, les marques qui font les choses bien, elles peuvent pas exister parce que c'est trop cher et pour la même chose, pour la même qualité.
Oui, il faut juste prendre conscience qu'un t-shirt à 5 euros, ce n'est pas normal. Mais ça viendra.
Ouais.
Ça viendra et je suis d'accord avec toi, il faut aussi trouver son point d'équilibre. On n'a pas tous les moyens de consommer que du made in France et ce n'est pas grave. Il faut juste trouver la balance et ce qui nous convient. Mais c'est vrai qu'en tant que consommateur, bien être attentif aux labels qui malheureusement ne sont pas... sont pas suffisants, mais qui sont quand même un indicateur. Et puis bien analyser aussi la marque. Je pense que c'est important d'écouter le discours de la marque, mais dans son intégralité. Et une marque qui fabrique 50% en Chine, 50% en Europe, en accent à fond sur le côté éthique de la production en Europe, faut peut-être mettre dans la balance et se dire, comment ça se passe vraiment?
Ouais, c'est ça. Mais c'est difficile pour le consommateur de se retrouver dans la jungle parce que les marques, elles jouent sur beaucoup de choses. On parle du greenwashing, mais dans la mode, c'est pareil. Même ce qui est les vêtements avec écrit du Made in France sur l'étiquette, ça ne veut pas forcément dire en fait que le vêtement a été fabriqué dans des conditions éthiques.
Ça peut vouloir dire que la fermeture a été posée en France.
Voilà. Enfin, c'est très compliqué pour le consommateur de bien faire, en fait. Mais tant qu'il fait un pas dans la bonne direction, n'importe laquelle, il envoie quand même un signal au marché, en fait. Donc, ça vaut le coup.
Il envoie un message qui, on l'espère, sera entendu bientôt. On n'est pas sûr, mais on peut espérer. Et si on revient au voyage, vous avez traversé combien de pays jusqu'à présent ?
Ah, il me faut le temps de compter.
Prends le temps.
On a traversé 12 pays au total. Donc en fait, on a scoré parce qu'on a traversé l'Europe. Donc on a fait l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie, la Pologne, la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie. Puis ensuite, on est arrivé en Russie, qu'on a traversé avec le Transsibérien. Et ensuite, la Mongolie et la Chine, maintenant Hong Kong.
Et à chaque fois, vous êtes resté assez longtemps. En tout cas, Mongolie-Chine, vous êtes resté un peu plus longtemps.
Le plus possible, oui. Mmh. En fait, on a traversé l'Europe assez rapidement parce que, en fait, quand on fait la demande pour le visa russe, on n'a que 3 mois pour arriver en Russie. Mmh. Et nous, on voulait absolument, de toute façon, arriver en Russie en juin parce que c'était, pour nous, le meilleur mois pour visiter la Russie en été. Et donc, comme on est parti début avril, on a eu 2 mois pour traverser l'Europe. Et ensuite, ensuite, on est resté autant que possible dans les pays. Donc, 30 jours en Russie, 2 mois en Mongolie en faisant une reconduction de visa, 2 mois en Chine en faisant une reconduction de visa, et Hong Kong.
À chaque fois, vous essayez vraiment de pousser la démarche, c'est-à-dire non seulement il y a le fait de ne pas prendre l'avion, mais en Mongolie, vous avez aussi fait le choix d'explorer à vélo. Mm. Quand, j'imagine, la majorité des touristes prennent des 4x4 ou je ne sais pas quel autre type de véhicule. Ouais. Ça a été facile.
Oui, en fait, le truc avec la Mongolie, c'est que c'est un pays qui n'est pas encore très touristique et donc qui n'est pas du tout équipé en termes de route. Il n'y a pas de route en Mongolie. Donc, il n'y a du coup pas de transport en commun. C'est très difficile de sillonner le pays en bus. C'est possible, il y a quelques lignes, donc on peut se rendre dans quelques villes, mais on ne peut pas vraiment se faire une idée du pays comme nous, on aime voyager. Et donc, ce que font en général les voyageurs, c'est qu'ils prennent un 4x4 pour pouvoir rouler sur les pistes en Mongolie, puisqu'il n'y a pas de route goudronnée. Et nous, ça nous posait un réel cas de conscience, parce qu'en fait, si on a fait le choix de ne pas prendre l'avion, c'était vraiment pour limiter notre empreinte carbone. Et là, on allait du coup arriver en Mongolie et on allait du coup bien dépenser en CO2, puisque 2 personnes dans un véhicule 4x4, c'est pas terrible, surtout pour faire autant de kilomètres de manière aussi condensée. Et en plus de ça, autant de 4x4 sur des pistes qui ne sont pas délimitées, ça veut dire... en fait, mine de rien, les routes, ça permet de préserver tout ce qu'il y a autour des routes. Le fait qu'il n'y ait pas de route, c'est que les 4x4 passent n'importe où et du coup, roulent là où potentiellement il ne faudrait pas rouler et donc du coup, détériorent la faune, la flore. Et nous, ça nous posait un vrai cas de conscience. On a commencé à y penser à peu près 2 mois avant d'y arriver, à se dire qu'il fallait vraiment qu'on trouve une solution ou alors qu'on visite pas la Mongolie. Et donc, on a trouvé le vélo. Donc, on est parti un mois à bicyclette sur les pistes et dans la steppe en Mongolie. Et c'était vraiment extraordinaire. Et c'est la meilleure décision qu'on ait prise, je crois. Et c'est marrant parce qu'en fait, depuis le départ, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on fait un choix conscient pour consommer mieux. Finalement, c'est toujours mieux pour nous aussi. Donc, un peu comme un cercle vertueux. J'ai toujours l'impression, en tout cas pour l'instant, qu'à chaque fois qu'on prend une décision qui va dans le bon sens, on est récompensé.
Ouais. Et pour voyager slow, évidemment, il y a l'avion, il y a aussi d'autres choses. Là, comme ça, je pense aux bouteilles en plastique et à l'eau potable. Mm. Je sais que vous voyagez avec un filtre. Mm. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur comment vous essayez vraiment de limiter aussi vos déchets pendant le voyage pour les auditeurs qui ont peut-être envie d'entreprendre le même genre de projet.
L'eau, c'est effectivement, je pense, le premier point à aborder quand on veut voyager zéro déchet et surtout zéro plastique. Parce que les bouteilles en plastique, c'est à proscrire le plus possible. Quand on habite en France où l'eau du robinet qui est potable, c'est facile de se débarrasser des bouteilles plastiques. On peut, si on veut, rajouter un filtrage au charbon actif si on veut purifier son eau, mais en tout cas, l'eau est potable, on peut la boire, donc il n'y a vraiment aucune raison en France de continuer à acheter des bouteilles en plastique. Le problème, en fait, c'est quand on commence à rentrer dans des pays où l'eau n'est plus potable, quand on est voyageur, c'est quelque chose à quoi il faut vraiment réfléchir en amont, en fait, et il faut amener le matériel avec soi dans son sac à dos. Parce qu'après, à partir de la Russie, l'eau n'a plus été potable pour nous. Alors en Russie, le problème, c'est qu'on ne savait pas. En fait, il existe deux types de pollution de l'eau. La première, elle est chimique. Donc tout, en fait, tout ce que, en général, ça va concerner les pays qui ont un fort secteur industriel, comme la Russie, par exemple. Donc on va retrouver beaucoup de métaux dans l'eau, etc. Beaucoup de pollution chimique. Ça, c'est la première des pollutions qu'on peut retrouver dans l'eau. Et la deuxième, elle est bactériologique. Ça, c'est en général celle dont on parle le plus. C'est celle qui va transmettre toutes les maladies qu'on connaît bien, la fameuse tourista ou bien plus grave. Et en Russie, en fait, il s'avère qu'il n'y a pas du tout de pollution bactériologique. Par contre, il y a une pollution chimique dont on n'était pas au courant. Donc là, pendant un mois, en fait, en Russie, on s'est retrouvé complètement chocolat parce qu'on n'avait pas de filtre charbon actif pour filtrer la pollution chimique. Donc on a dû revenir aux bouteilles d'eau. On s'est équipé du coup a posteriori, une fois qu'on est arrivé à Oulan-Bator et qu'on a reçu ce fameux colis avec nos affaires d'été, on a aussi fait venir un filtre à charbon actif. Donc nous, on utilise la marque Lifestraw. C'est le meilleur filtre qu'on ait trouvé pour nous au départ, donc pour tout ce qui est pollution bactériologique, parce qu'en fait, ils sont capables de filtrer les virus. Et ça, c'est en fait un niveau de filtration qui est très très petit. En général, les filtres qu'on trouve sur le marché, ils filtrent les bactéries et tout ce qui va être microparticules de plastique, par exemple. Mais les virus, c'est très rare. Et donc, avec un filtre Lifestraw, nous, on était complètement rodés sur tout ça. Donc, on pouvait aller en Chine ou boire dans les flaques d'eau puante en Mongolie, comme on l'a fait plusieurs fois, sans problème. Mais par contre, pour la Russie, on n'était pas du tout équipés. Et on s'est équipé depuis, pareil, avec une solution Lifestraw, ça s'appelle Flex, je crois, qui est une solution au charbon actif et donc qui permet de filtrer ce genre de pollution. Et voilà, donc ça, c'est absolument à avoir dans son sac à dos si on veut éviter les bouteilles en plastique et évidemment la gourde.
Et ça se fixe sur l'arrivée d'eau ou ça se glisse dans la gourde?
C'est un grand sac qu'on remplit d'eau. Puis il y a un tuyau ensuite qui descend et on remplit au goutte à goutte nos bouteilles. Donc ça peut être assez long. Et sinon, il y a aussi une solution donc avec une pompe. Ça, c'est la marque MSR qui le propose et qui filtre aussi les virus, mais qui est un petit peu plus onéreuse, mais qui permet de gagner en termes de rapidité. Parce que c'est vrai que c'est un petit peu long la solution qu'on a choisie. Mais bon, on est content parce que du coup, on s'évite. On n'a absolument aucune bouteille d'eau, donc à part la Russie. Où on s'est retrouvé vraiment chocolat. Donc ça, je me suis bien empressée de le dire et de communiquer parce que moi, c'est un truc que je ne savais pas du tout. Et c'est vrai que quand on est voyageur en fait, et qu'on recherche des informations sur les pays, en général, on ne trouve pas ce genre d'informations.
Non.
Ouais.
C'est pas très vendeur.
Non. Donc voilà. Mais ouais, il faut s'équiper pour l'eau. Je pense que c'est effectivement le premier réflexe.
Ouais, l'eau, après en pollution, haute pollution quand on est voyageur, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Bon, les produits de toilette, mais ça, c'est assez facile à remplacer.
À privilégier les solides, produits de beauté solides. Ouais. Mais après, il va y avoir tout ce qui est plastique, tout ce qui est emballage. Et là, c'est vrai que quand on arrive en Russie, c'est difficile. Je pense, les solutions, c'est toujours les mêmes, en fait. Il faut privilégier les marchés de producteurs. Pour trouver tout ce qui va être légumes, fruits, donc sans emballage. Essayer de trouver des magasins de vrac. Donc c'est vrai que quand on arrive à Hong Kong, c'est le paradis. Mais quand on est dans un petit village en Chine, petit village encore ça va. Parce que mine de rien, le vrac, c'est un petit peu la base au départ. Mais quand on va être plus dans une petite ville qui ne fait pas du tout attention à ça, ça va être très difficile. Mais en cherchant, on trouve toujours. Nous, ce qu'on a mis dans notre sac à dos pour éviter donc du coup les déchets, on a par exemple pris des sacs à vrac, donc on a toujours avec nous. On a des Tupperware, donc par exemple quand on veut manger dans un stand dans la rue par exemple, pour éviter de prendre ce qui va nous donner, on a toujours nos Tupperware dans nos sacs. On a pris des couverts aussi. On n'a pas pris de paille parce que on n'en a pas besoin. Par contre, on essaye à chaque fois qu'on commande quelque chose qui serait susceptible d'avoir une paille, de le préciser avant. Mais ça nous aide. Enfin, de temps en temps, on n'y pense pas, il y a des ratés. Mais bon, encore une fois, on peut pas être parfait, irréprochable. Enfin, le mieux. Enfin, il faut faire au mieux. Hein, c'est toujours pareil. Mais ouais, voilà pour mes conseils. Mais c'est vrai qu'on a essayé d'y penser bien en amont et de s'équiper pour éviter des déchets qu'en fait on n'aurait pas produits si on était resté chez nous. Mmh. C'est aussi ça moi qui m'embêtait un petit peu, c'était qu'en fait, quand on avait notre maison, on avait notre routine qui était bien rodée, on avait notre marché le vendredi, notre magasin bio qui proposait du vrac à côté, on avait tout, la machine était huilée, on produisait absolument aucun déchet, ou quasiment pas. Et c'est vrai que du coup, là, comme on faisait le choix, forcément un peu égoïste de voyager, on allait produire des déchets qu'on n'aurait pas produits avant. Donc c'est vrai qu'on fait tous les efforts possibles pour réduire l'impact qu'on peut avoir.
Après la Mongolie et le parcours à vélo, vous êtes aussi resté assez longtemps en Chine, notamment dans une ferme de permaculture. C'était une idée que vous aviez depuis le départ? Ça s'est fait comme ça?
Non, c'était pas du tout une idée qu'on avait au départ. Après avoir passé du coup 5 mois sur les routes, 6 mois même sur les routes.
Oui, sans vraiment vous poser.
Sans vraiment se poser longtemps. On s'est dit que ce serait bien, qu'on avait besoin d'avoir une stabilité à un endroit en fait, qu'on pourrait appeler la maison et pendant longtemps. Et donc en fait, j'ai fait un appel sur Instagram en demandant « Est-ce que quelqu'un ici connaît un endroit où ?» Et alors là, il y avait trois conditions. Il fallait qu'on puisse trouver des légumes bio, qu'on soit pas trop gêné par la pollution atmosphérique et puis que ce soit une ville un peu tranquille. Finalement, c'était les trois choses. On n'a pas besoin de grand-chose, c'était juste ce qu'il nous fallait. Et il y a quelqu'un donc, qui m'a parlé de Nirvana Organic Farm, donc, qui est une ferme en permaculture dans la région de Guilin, qui est en plus de ça une région mais absolument magnifique. Moi, je me demande si c'est, en termes de paysage, si ce n'est pas pour l'instant le plus bel endroit dans lequel on est allé. Donc cette ferme qui propose qui a un hôtel, un restaurant et une ferme en permaculture et qui propose en plus, qui appartient au réseau Workaway. Donc en fait c'est ce qu'on a fait pendant un mois parce que les chambres sont quand même assez chères parce que c'est quand même un truc un peu, enfin pas luxe mais assez haut de gamme, moyen haut de gamme. Donc on n'aurait pas pu rester un mois là et donc par contre en travaillant en Workaway, donc c'est-à-dire qu'on travaillait entre 4 et 5 heures par jour, 5 jours par semaine, à la ferme, donc avec les légumes, les mains dans la terre. Donc en plus, ça nous a permis à nous de nous former un petit peu en permaculture. On avait déjà quelques bases, mais du coup, ça fait toujours, toujours du bien de continuer à se former. Ça nous a permis à nous de pouvoir rester gratuitement. Donc on avait le droit de dormir et de manger gratuitement là-bas. Donc c'est vrai que ça, pour les voyageurs qui veulent, qui voyagent slow et qui en plus ont un petit budget, ce genre de système, donc Workaway ou le Woofing aussi, ça marche super bien.
Workaway, c'est un réseau sur lequel tu peux retrouver des fermes, des endroits où...
Alors Workaway, c'est pas uniquement des fermes, ça c'est le Woof plutôt. Et oui, c'est un site internet ou une appli sur lequel on retrouve en fait tout un réseau de... le Woofing, c'est vraiment que des fermes bio, partout dans le monde. Donc si on a envie de faire du jardin, c'est le Woof qu'il faut contacter. Nirvana Organic Farm, par exemple, n'est pas sur le réseau Woof, mais sur le réseau Workaway. Workaway, ça va être plus vaste en termes d'activité en fait. On peut, par exemple, faire des cours d'anglais avec Workaway. La demande est plus vaste.
D'accord, mais le principe
reste le même. Mais le principe, c'est vraiment fournir un service en échange de finalement ce qui est le plus important, un toit et à manger.
D'accord. Et c'est une expérience que tu as appréciée ?
Ouais, vraiment. Ouais, c'était vraiment très chouette parce qu'on était dans le cœur de la Chine avec des vrais Chinois. Et en fait, je dois dire que ça a fait sauter tous nos a priori. Déjà, le fait d'arriver en Chine a fait sauter quelques a priori qu'on pouvait avoir sur la Chine avant d'y aller. Mais en fait, le premier mois, finalement, on était vraiment touristes en Chine. On est allé d'un bel endroit à un bel endroit sans vraiment finalement faire connaissance avec la population. Et le fait de vraiment rester au milieu de la Chine avec des vrais Chinois, c'est vraiment apprendre à les connaître, à apprendre comment ils vivent, un petit peu comment ils pensent, à pouvoir en tout cas discuter de choses un petit peu plus profondes et poussées. C'est extraordinaire, en fait. Enfin, c'est vrai que... voyager sans les rencontres, est-ce que c'est vraiment voyager? Je sais pas. Donc, c'était vraiment très chouette. Bon, plus évidemment, le côté se retrouver à faire un travail physique tous les jours dans la terre, manger bio tous les jours. On est ressorti de là avec une forme olympique.
Vous pensez retenter l'expérience ailleurs, en Asie du Sud-Est ou même...
Ouais, c'est pas impossible du tout. C'est pas impossible du tout. En fait, rien n'est vraiment programmé. Mais oui, c'est bien possible qu'un jour, on ait envie de se poser longtemps. Parce que je pense que c'est intéressant vraiment de le faire quand on choisit de rester au moins 2 semaines dans un endroit. Mmh. Ouais, on regardera soit Workaway, soit le woofing, parce qu'en plus ça soutient, enfin c'est beau en fait comme initiative, je trouve, enfin c'est d'accueillir des gens,
c'est le partage.
Ouais, c'est le partage. Mmh. Ouais.
Et est-ce que vous avez réussi à vous réapproprier votre temps comme vous le souhaitiez au fil du voyage? Comment tu ressens ça? Est-ce que finalement essayer de visiter un endroit puis un autre, c'est pas aussi avoir une certaine pression sur son temps?
Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'en fait on est tenu par les visas qui ont des durées finies. Parce qu'en fait donc quand je dis qu'on peut utiliser notre temps comme on veut, on est quand même soumis à des lois. Et donc par exemple en Chine, on avait droit à 1 mois qu'on pouvait reconvertir en 2, ce qu'on a fait. Mais par contre, on peut pas rester plus longtemps que ça. Et donc c'est vrai qu'on est poussé finalement à saisir ces 2 mois pour visiter le plus de choses possible. Ça, on est poussé à le faire parce qu'on se dit peut-être qu'on reviendra jamais de notre vie en Chine. Donc c'est dommage finalement de passer à côté, mais en même temps c'est aussi dommage quand on prend un peu de recul de faire ça vite et du coup de le faire moins bien. Donc, et au départ, en fait, notre idée, c'était vraiment de s'arrêter dans une ville et puis d'y rester 2 semaines ou 3 semaines pour vraiment voir comment on vivait dans chaque ville, vraiment s'imprégner de la culture, de comment les gens vivent, comment c'est de vivre ici. Et c'est vrai que pour l'instant, on court un peu plus que ce qu'on aurait voulu. Mais parce que, oui, en fait, c'est vrai que c'est une lutte perpétuelle entre frustration et envie de découvrir. Donc, bon. Ouais, c'est vrai. Mais cela dit, on est quand même maître de notre temps. Personne ne nous pousse ou ne nous... On est quand même décisionnaire. Mais c'est vrai qu'on pourrait être plus sage, peut-être.
Et puis, il y aura aussi, au moment où vous aurez envie de rentrer en France ou ailleurs, anticiper tout ce trajet retour sans prendre l'avion. Mmh. Donc, selon l'endroit où vous êtes, ça pourra prendre plusieurs semaines, plusieurs mois. Mmh. Donc là encore, il faudra quand même évaluer le temps.
Ouais, ça, c'est vrai que c'est la question qu'on... finalement, qui est venue très récemment. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas encore trop pensé au retour.
En fait, plus t'avances en kilomètres,
oui,
je pense,
peut-être.
Et tu dis, waouh, on a déjà parcouru tout ça.
Ouais, peut-être.
Et il faudra le refaire dans l'autre
sens. Et oui, en fait, il ne faut pas attendre de vraiment vouloir rentrer pour rentrer, puisqu'on est très loin et ça prend du temps. Donc, il ne faut pas attendre d'être vraiment au bout du bout pour rentrer. Mais en même temps, on est aussi poussé par « mais le Japon, c'est plus très loin, on pourrait peut-être y aller » ou « l'Australie, tant qu'à faire, ce serait l'occasion ». Mais tout ça, c'est encore plus loin finalement. Ça repousse le retour. Donc ça aussi, du coup, on est en perpétuelle tension entre est-ce qu'on continue le voyage? Est-ce que le voyage va durer 7 ans ou est-ce qu'on va faire plutôt des petites boucles de voyage petit à petit? Enfin, on verra. Ouais, c'est à planifier.
Après Hong Kong, vous avez prévu d'aller où? Je sais que c'est assez flou et que vous n'avez pas un programme sur les mois à venir. Néanmoins, il faut bien en sortir, et pour en sortir sans prendre l'avion, il n'y a pas 1000 possibilités.
Non, il n'y a pas 36 solutions.
Sachant qu'en bateau, depuis Hong Kong, il n'y a que la Chine ou Macao. Mm. Vous allez aller à Macao.
Mm. Oui, on va aller à Macao peut-être 1 ou 2 journées. Et puis ensuite, là, on a fait les démarches pour faire une demande de visa chinois, pour avoir à nouveau 30 jours. Parce qu'effectivement, c'est la seule porte de sortie. Donc, on espère qu'on va nous l'accorder, ce visa. Normalement, il n'y a pas de problème, mais bon, sait-on jamais. Et puis, si on ne nous l'accorde pas, on a droit à 3 mois en tant que Français à Hong Kong. Donc là, on aura peut-être le temps de chercher une solution alternative en se rendant sur les ports et en voyant un petit peu comment ça marche avec les capitaines de bateaux. Peut-être que potentiellement, ils font des trajets qui pourraient nous intéresser. Je pense que si jamais le visa ne marche pas, ce sera ce qu'on fera. Donc on a droit à 3 mois. Donc on pourra utiliser ces 3 mois à Hong Kong ici. Et sinon, si jamais il faut prendre l'avion, on ne va pas attendre de se faire pousser par le derrière ou devoir de se faire mettre en prison par Hong Kong. Donc on prendra l'avion. Mais voilà. Et après, donc après 30 jours en Chine, on va au Vietnam pendant 2 mois. Et normalement, après, le Cambodge. Mais voilà, après, on ne sait pas plus. On verra.
Avec l'envie de vous poser un petit peu, un peu longuement, comme vous avez fait en Chine, ou plutôt d'accélérer le pas, vous verrez.
À voir et à réfléchir, parce que c'est vrai que, bah, comme on en a parlé, il faut apprendre de nos erreurs et apprendre à prendre plus le temps. Mais le Vietnam, c'est très grand. on a 2 mois, mais voilà, c'est très grand, c'est très beau, donc à voir. Peut-être, oui, effectivement, essayer de ralentir, choisir les endroits où ce sera mieux pour nous.
C'est difficile sans y être allé.
Ouais, aussi. Ouais, ouais.
Pour anticiper, imaginer, c'est pas évident. Mmh. Toi, sur ton blog, tu relais toutes ces informations, t'échanges beaucoup avec ta communauté qui te suit. Est-ce que ça t'ouvre des portes? Est-ce que tu rencontres des lecteurs, des lectrices qui habitent à l'étranger? Ça crée plus d'échanges qu'avant?
Alors, j'ai pas encore rencontré, à part toi, t'es la première, mais j'ai pas encore rencontré sur le chemin de lecteurs. Par contre, il y a des lecteurs qui me disent que « Est-ce que vous serez à tel endroit, à tel moment, on y sera aussi
?» Mais ça, c'est pas possible d'anticiper.
Non. Donc, on verra. Mais c'est vrai que c'est chouette pour nous. Ça nous fait plaisir parce qu'on est très loin de nos proches et ils sont d'autant plus loin qu'on ne peut pas les retrouver avec quelques heures de vol.
Donc, et ils ne peuvent pas vous retrouver non plus vu que vous ne savez pas où vous serez. Aussi, c'est ça qui est un petit peu compliqué. Ouais. Ouais.
Donc bah, nous, ça nous fait toujours plaisir de rencontrer des gens qui nous connaissent un tout petit peu, même si c'est que un tout petit peu, mine de rien, c'est comme si on retrouvait des copains à l'autre bout du monde. Enfin, nous, ça nous fait vraiment plaisir. Et oui, c'est chouette d'avoir du coup cette petite communauté qu'on amène voyager avec nous. Donc oui, sur le blog, on essaye de faire des vlogs aussi, avant tout pour nous, pour garder tous ces souvenirs, parce que c'est quand même une aventure extraordinaire. Mais bon, du coup, ça permet à tout le monde de, un petit peu... comme si on les avait dans nos sacs à dos. Ouais, c'est chouette. C'est chouette d'amener tout le monde avec nous et du coup, de vivre cette expérience avec ceux qui veulent la vivre avec nous, quoi.
Ouais, c'est pour ça aussi que tu partages beaucoup de conseils, d'astuces, que tu essayes de guider les gens pour leur montrer que c'est possible, en fait, de voyager sans prendre l'avion. Je pense qu'on a un petit peu oublié que c'était possible.
Bah ouais. Oui, clairement, c'est pas commun. Et l'avion, en fait, ça reste le dernier truc, même les gens qui font des efforts depuis des années, ça reste en fait dans un coin de la tête parce que c'est trop compliqué et trop dur en fait de faire une croix sur le voyage. Parce que le voyage, tout le monde sait que c'est magique, c'est précieux, on apprend énormément, on grandit, c'est comme ça qu'on comprend mieux l'autre. Enfin, c'est extraordinaire de voyager et donc faire une croix sur le voyage, c'est trop dur. Donc après, on est partis sans avion et c'est possible. Il faut juste pour ça avoir du temps. Mais encore une fois, notre exemple prouve que c'est possible de réussir à avoir du temps puisqu'au départ, on était 2 personnes qui n'en avaient pas, comme tout le monde. Mais je pense que ce qui est important aussi à dire, c'est qu'il est possible aussi de voyager en n'allant pas très loin.
On peut voyager en France.
Voilà.
C'est faisable, on est d'accord. Merci beaucoup Céline, je pense qu'on a fait le tour de tout ce que je voulais aborder avec toi. Évidemment, je renverrai les auditeurs vers ton blog, qui est très très bien alimenté, très complet sur le sujet, tes réseaux sociaux, tout ça. Et puis bonne route.
Merci beaucoup.
À bientôt.
À bientôt.
Et voilà, cet épisode est déjà terminé et j'espère qu'il vous aura plu. Vous pouvez retrouver les aventures de Céline et David sur le blog de Céline, Is Now Good, ainsi que sur son compte Instagram du même nom. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode avec vos proches, vos amis et vos collègues. Basilic est un média indépendant, un projet que je mène avec passion en parallèle de mon activité professionnelle. Certains épisodes peuvent être soutenus et sponsorisés par de courts spots publicitaires. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À très bientôt !